Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 4. J'ai terminé la mini-série de l'été avec le témoignage d'Amélie qui vous révélait avoir deux mamies. Évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de lui demander si je pouvais interviewer ses mamies. Cela fait un petit moment que l'on peaufine le projet et j'ai même eu la chance de les rencontrer. Odile et Françoise ne connaissaient pas le monde du podcast et encore moins le mien, mais elles ressentent de plus en plus le besoin de communiquer sur ce qu'était la vie d'une famille homoparentale dans les années 80. Militantes de la première heure, elles n'en sont pas à leur première action de visibilité. Elles sont descendues dans la rue en 2013, aux côtés de leurs enfants et petits-enfants, lors des manifs du mariage pour tous. Elles ont milité pour les autres, disent-elles. Mais finalement, se marier n'est-il pas un acte militant ? En tous les cas, ce mariage était attendu et même fortement suggéré par leur famille. Alors comment vivait-on au sein d'une famille homoparentale dans les années 80 ? Je vous propose aujourd'hui un épisode à 7 voix pour découvrir l'histoire d'Odile et Françoise, narrée par elles-mêmes, par Jérôme, Adrien et Emmanuel, leurs enfants, et Amélie, leur petite fille. Les souvenirs ne sont pas toujours les mêmes, mais leur complicité et l'amour partagé est extrêmement touchant. Pas de doute, nous pouvons affirmer que sur 3 générations, les enfants vont bien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, je dois dire que je suis très impressionnée puisque c'est la première fois que j'enregistre avec 6 personnes en même temps. Je vous remercie vraiment de vous être rendu disponible pour cet enregistrement, pour me raconter vos histoires, l'histoire de votre famille, puisqu'aujourd'hui, je suis en relation avec une famille entière, 3 générations, qui fait partie de nos familles, puisque... Nous avons avec nous Odile et Françoise, qui sont en couple. Bonjour Odile et Françoise. Nous avons leurs enfants, Adrien.
Bonjour.
Emmanuel.
Bonjour.
Et Jérôme.
Bonjour à tous.
Et nous avons un petit enfant, en la personne d'Amélie.
Ouais, les autres sont pas là, mais je représente.
Voilà, tu représentes et on pense à eux. Donc on est réunis aujourd'hui pour enregistrer vos histoires. J'ai très envie, même si j'en ai découvert une bonne partie, de découvrir l'histoire de Odile et Françoise. Donc on va commencer par vous écouter, me raconter votre histoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux ?
Je suis Odile, je suis la plus vieille, donc je prends la parole. Je suis la maman d'Emmanuel et de Jérôme et la grand-maman de Amélie, Juliette, etc.
D'accord. Donc vous êtes quand vous dites vous êtes la maman de Emmanuel et Jérôme, donc vous êtes la maman biologique d'Emmanuel et Jérôme, c'est ça ?
Voilà.
Ok.
et je suis la maman aussi de Adrien, qui a été conçu sans péché.
D'accord. Et vous, Françoise ?
Alors moi, je suis la maman biologique d'Adrien, la compagne d'Odile. Mm-hmm. Que vous dire de plus ? Ben moi, j'étais prof d'art appliqué dans un lycée professionnel. J'étais spécialisée dans la communication graphique et je suis à la retraite depuis une dizaine d'années maintenant. Mm-hmm. Voilà, j'ai 72 ans.
Et Odile ?
Et Odile, toi, tu étais...
Moi, je suis bien plus vieille. Hein. 75. 77. J'étais d'abord prof de dessin. Ensuite, j'ai été proviseur dans un lycée professionnel. Ensuite, j'ai été principale dans un collège. Et maintenant, je suis à la retraite et je suis ravie d'être à la retraite.
Je veux bien vous croire. Mais en tout cas, je peux deviner du coup le contexte de votre rencontre, puisque vous avez toutes les deux travaillé en collège-lycée, c'est ça ?
On était toutes les deux professeurs d'art appliqué. Mm-hmm. Et on a connu une réunion de profs en 80-81, dans les années 80-81.
D'accord. Et quand vous vous êtes rencontrés, si je comprends bien, donc pour faire un résumé pour nos auditeurs, du coup, toutes les deux ensemble, vous avez un fils qui est Adrien, et Odile a eu deux enfants précédemment, c'est ça ?
Oui, j'étais mariée, un prof de fac, et j'ai fait deux beaux enfants, et je suis ravie de ça.
D'accord. Et quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez encore en couple, Odile, ou vous étiez séparés ?
J'étais encore en couple, mais je pensais que ça pourrait peut-être pas durer.
Oui, d'accord. Vous étiez en questionnement, on va dire.
Oui.
D'accord. Est-ce que ça a été évident, votre rencontre ?
Pardon ?
Est-ce que ça a été évident ?
Oui, même plus évident que notre rencontre.
Je vous pose la question parce qu'on est en 81 quand vous vous rencontrez et qu'on sait que c'est pas, enfin qu'à l'époque c'était pas forcément simple de vivre son homosexualité ou de la découvrir même.
Oui, bah de toute façon c'est sûr que tout était dissimulé, nos rencontres. Et ça, alors d'abord parce que Odile était mariée avec des enfants et tout ça, on voulait ne rien montrer.
Bien sûr.
Et puis aussi par rapport à nos collègues, à nos voisins, notre famille, tout était vécu dans le secret, mais enfin bon, ça n'empêchait pas qu'il y ait beaucoup de bonheur.
Bien sûr, bien sûr. Et pour vous, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que ça a été simple d'admettre que vous puissiez vivre une relation ensemble, même si tout était caché, ou vous avez mis un peu de temps à trouver vos marques ?
Moi, je me sentais très coupable.
Oui, je me doute.
Très coupable par rapport à mes enfants, à mon mari. Et si c'était... Oh là là.
Emmanuel et Jérôme avaient quel âge ?
Oh, ils n'étaient pas grands. Quel âge vous aviez ? 14, 15 ans ?
Non, non, 12 ans.
12 ans ? Vous étiez petit alors.
12 ans et 10.
Oui, c'est effectivement, c'est pas grand, mais c'est suffisamment grand pour comprendre, pour bien comprendre ce qui se passe.
J'ai vite compris.
D'accord. Et comment vous leur avez amené déjà la séparation avec leur papa et ensuite la découverte du coup de Françoise ?
Je ne me souviens plus comment j'ai amené
ça. Alors, les avis vont être divergents là-dessus parce que ma sœur a une version, j'en ai une.
D'accord.
Ma mère n'en a peut-être plus, mais.
Racontez-moi.
En fait, déjà, elle dormait plus avec papa hein, depuis quelques temps. Tu dormais dans le salon du bas, maman, tu te souviens ? Et bon, du coup, on avait déjà eu un peu la puce à l'oreille. Et comme je suis un peu fouineur, j'avais fouiné dans ses affaires et j'étais malheureusement tombé sur son journal intime.
Ah, d'accord, ok.
J'ai lu deux, trois phrases, j'ai trop fermé. J'ai gardé quelques semaines ça pour moi et j'en ai vite parlé à ma sœur qui est un peu mon modèle et qui avait eu une attitude de rejet à l'époque parce qu'il est très vrai que comme vous le disiez fort justement c'était compliqué à l'époque. Moi-même d'ailleurs j'ai tapissé ma chambre de mannequin du jour au lendemain, partout. Voilà, c'était un peu une attitude, c'était compliqué.
Ouais.
Mais rapidement, et puis avec des explications, on a pu comprendre.
Quand vous vous êtes séparés du papa des enfants, c'était avec le projet d'emménager avec Françoise, ou vous avez eu une période de battement, en fait, pendant lequel vous avez pris le temps de savoir comment vous alliez pouvoir vivre cette relation avec Françoise?
Je me demandais bien comment j'allais vivre cette relation avec Françoise. Bon, je voyais que les enfants étaient au courant. François commençait à aller mal. Donc j'avais vraiment... Je me sentais pas bien de le faire, de le quitter. Mais bon, je l'ai quitté et il est allé de plus en plus mal.
Ouais, je me doute.
Oh, il s'est relevé quand même. Hein, il s'est relevé quand même.
Oui.
Il s'est relevé quand même. C'est vrai qu'il allait, il était peut-être pas. Enfin, nous, on n'a peut-être pas trop souvenir avec Emmanuel, mais il s'est relevé quand même, maman. Après, ça allait.
Mm-hmm.
Puis elle a dit, hein, n'oublions pas.
Et alors, comment vous avez envisagé du coup votre relation avec Françoise à ce moment-là? Je suis désolée, Françoise, je vous donne pas trop la parole parce que on a commencé par Odile, mais. Comment est-ce que vous avez envisagé du coup votre relation avec Françoise une fois que vous aviez fait le deuil de votre précédente relation?
Ça a été long de faire le deuil. Hein.
Ouais, je me doute.
Il y avait les enfants qui étaient petits encore et je voyais que François commençait à aller pas bien du tout. Et puis il s'est révélé qu'il avait la maladie de Parkinson.
Oh non, d'accord. C'est pas lié.
Si.
C'est pas du tout lié. Après, maman, c'était très longtemps après la maladie de Parkinson.
Écoute, il avait des signes, hein. Il avait des signes, moi je m'en apercevais.
Oui, mais c'est pas forcément lié, en tout cas à votre nouvelle relation. Mais effectivement, ça devait dans le contexte, ça devait pas aider.
Je me disais, je peux pas le laisser comme ça.
Non, maman, non. Quand tu es partie, papa n'avait rien. Il n'avait pas du tout de troubles. C'est arrivé 20 ans plus tard, maman.
C'est arrivé à mon mariage, les premiers troubles.
T'inquiète pas.
Et du coup, Odile, vous, dans ce contexte, comment ça s'est passé? Enfin, je ne sais pas si vous aviez eu des relations avec d'autres femmes avant ou si vous étiez aussi dans un contexte hétérosexuel. C'était la première fois. D'accord. Et comment vous avez...
Ouais, ça m'étonne aussi, Emmanuel. Qu'il n'y avait pas du tout d'autres relations avant?
Non.
T'as eu d'autres amoureuses?
Avant, maman.
Enfin, on a écrit un livre sur le sujet, on sait tous que t'as eu d'autres amoureuses avant, quand même.
Non, j'ai pas eu de relations, j'ai eu des amourettes, mais c'est pas des relations.
Voilà. Enfin bon, tu savais quand même, t'as pas découvert ton homosexualité avec Françoise.
Ça me l'a affirmé.
Et Françoise, de votre côté?
Alors, c'est quoi la question?
Est-ce que vous aviez... C'est votre première relation avec une femme ou vous aviez eu d'autres relations avant avec des femmes?
Oui, j'avais eu d'autres relations avant.
D'accord.
Et non, c'était pas ma première relation.
D'accord.
J'avais eu des relations avec des hommes, mais j'avais jamais été mariée. Jamais des relations longues non plus. Toujours très épisodiques. Parce que j'ai essayé d'expérimenter pour un peu changer mes attirances naturelles.
Mmh.
Et donc, j'ai essayé de me changer. Et puis bon, voilà, je me suis confirmée dans mon homosexualité. Donc c'était... Non, j'avais une longue relation avec une femme que j'avais connue au lycée.
Mmh.
Et puis on est resté 3 ans, je crois, ensemble. D'après, j'ai connu Odile. Enfin, il y a eu d'autres choses, mais voilà. J'ai connu Odile en 81.
D'accord.
Et on est ensemble depuis 40 ans, quoi.
Bah oui, c'est magnifique. Hein. Je pense que, enfin voilà. Oui. Moi, j'ai très envie de rester 40 ans avec ma femme aussi.
Bon, bah, je vous le souhaite parce que c'est sympa.
Quoi. On en est à 22. Enfin, 22. Yeah. Entre 17 et 22, il y a eu des petits. Voilà. on prend le bon chemin.
Ah oui, mais dans les couples, il y a toujours des petits couacs, des trucs comme ça.
Voilà, il y a des...
Ça. Oui, oui.
Et dans le contexte d'Odile, du coup, est-ce que ce contexte a biaisé un peu votre début de relation? Est-ce que vous arriviez à vous projeter avec, avec Odile, du coup, ou pas trop? Vous avancez au jour le jour? Vous avanciez, pardon, au jour le jour?
Non, c'était un peu quand même au jour le jour, mais moi, je me faisais moins de soucis pour François, son mari, que pour les enfants. Si j'étais culpabilisée, c'était par rapport à Jérôme et Emmanuel.
Oui, forcément.
Parce que voilà, je trouvais que c'était pas bien de séparer les enfants du papa et tout ça. Mais je l'ai fait quand même, alors.
Oui, bon, effectivement, il y a des moments où on faut aussi penser à soi.
D'ailleurs, au début où je l'ai connue, Odile, tout à fait au début, j'étais réticente à cause de ça, parce qu'elle avait des enfants, un mari, une situation, une maison, un appartement, tout ça, elle était quand même bien, dans un système bien fermé, ouais. Tout ça.
Non, crée.
Oui, mm-hmm. Elle n'était pas libre. Oui.
Oui, non, effectivement, elle n'était pas libre.
Oui.
Et quand est-ce que vous avez pris la décision vous faire rencontrer les enfants? Donc, je suppose que c'est une décision commune, hein, à vous deux, que vous rencontriez les enfants d'Odile.
J'ai très vite rencontré Emmanuel et Jérôme. Oui, on a très vite passé des moments... Enfin, moi, j'ai un souvenir extraordinaire d'être avec eux tout de suite. Bah, oui, on était... J'étais censée être une amie, pas une amante, hein, quand je venais chez elle.
Oui,
donc,
Doutais pas.
Non, mais au début, tout à fait au début. Donc, j'étais souvent, on mangeait avec eux. Enfin, j'allais manger chez eux et je les voyais régulièrement. J'aimais beaucoup ça, hein. J'ai un très bon souvenir de ça. Je me rappelle, j'ai des souvenirs précis d'Emmanuel et Jérôme Petit, comme si c'était mes enfants.
Oui, vous êtes de suite attachés à eux.
Ah oui. Et quand ça a brouillé.
On l'est un peu.
Quand on s'est brouillé, enfin. Comme je dis, dans les couples, il y a toujours des moments de brouillage. Il y a eu un petit moment de brouillage, un peu d'ailleurs à la naissance d'Adrien, où elle avait peur de, parce que ça s'est passé un peu tout ça en même temps, elle avait peur de priver Adrien de son père aussi. C'est-à-dire, elle voulait m'encourager à rester avec Albert, le père d'Adrien, enfin, le père,
biologique.
Oui, d'Adrien. Et j'étais là où j'étais le plus malheureux, c'est de plus voir Emmanuel et Jérôme.
Ouais,
bizarrement,
C'est ça qui est difficile, hein, dans les familles. Quand on arrive dans une famille composée de recomposer, ouais. c'est difficile de ne pas avoir de droit sur les enfants précédents, en fait.
Oui. Oh, je me sentais aucun... Oui, je voyais bien que j'avais aucun droit.
Bien sûr. Et Adrien est né en quelle année?
Alors, tu parles, Adrien?
Oui. Alors, moi, je suis né en 88.
88, d'accord. Donc, du coup... Ah, il s'est passé un sacré moment, quand même. Bon, en même temps, c'est normal. À l'époque, c'était pas tout à fait la même façon de pouvoir accéder à la parentalité.
Mais d'ailleurs, quand j'ai révisé tout à l'heure, là, c'est vrai que de 80 à 88... on habitait ensemble en 87, un truc comme ça. On a eu plusieurs années où on se voyait l'une chez l'autre sans habiter ensemble.
D'accord, oui, bah oui, 6 ans du coup.
Oui. Ouais.
D'accord. Et alors, la décision d'habiter ensemble, comment vous l'avez prise et comment vous avez géré ça en restant caché entre guillemets?
La décision. Petit à petit, Odile, de toute façon, voulait se séparer de François, ça c'était dans ton projet. Et puis, voilà, ça s'est fait. Hein. Tu peux raconter comment t'as dit à François que tu partais, mais je sais pas si bien.
Ben oui, j'ai dû lui dire un jour. Oui. Je savais que ce serait dur pour lui. Et effectivement, il a été très très blessé. J'ai senti que c'était très très douloureux.
Voilà, donc. Elle est partie, elle s'est d'abord installée dans un petit, enfin bon, il y a eu des petits épisodes dans un petit appartement, je sais pas, après dans un autre. Alors après, c'est sûr que Emmanuel, t'étais déjà, en études, là, quand ça s'est passé, c'est Jérôme qui était entre deux maisons, ça c'était pas...
Mais il a pas perdu la raison.
Mais c'était... Difficile, oui.
Les enfants sont résilients.
Parce que je pense que c'était très difficile pour François que sa femme parte.
Oui, je pense.
Et en plus avec une femme.
Ouais, ouais. Ça devait être assez inattendu. Hein. Donc, enfin, même si c'est pas forcément attendu que sa femme s'en aille, mais en plus avec une femme, à l'époque, ça devait pas être envisageable.
Non. Et donc, oui, après, on s'est installé.
Il a beaucoup souffert de ça, je pense, en particulier. C'est important de le dire. Ouais. Je pense qu'il a surtout souffert de ça. Enfin, bien sûr, du départ de maman, mais de l'image aussi que ça pouvait renvoyer. Encore une fois, à l'époque, c'était vraiment... Vous ne parlez pas du tout de vos parents, mais ce serait intéressant d'en parler, maman, notamment.
De tes parents, oui.
Vos parents étaient encore vivants à ce moment-là?
Oui, ils étaient encore vivants.
D'accord.
Ça a été un choc terrible pour mes parents.
Mais pour l'annoncer, ça a été dur aussi.
Tes parents n'ont jamais été mis au courant de ton homosexualité, maman. Jamais. Ils sont morts en ne sachant pas. Tu ne leur as jamais dit que tu étais homosexuel.
Ouais, je pensais que si.
La seule personne à qui tu l'as dit, c'est Coco, l'amie de la famille, qui avait le même âge qu'eux, qui était même plus vieille, et qui a accueilli ça avec énormément de bienveillance et d'amour. Et tu ne l'as jamais dit à tes parents.
Je pense qu'ils l'ont compris. Hein.
Oui, surtout si vous habitiez... Enfin, c'était un non-dit, quoi. Si vous habitiez avec Françoise.
Alors, moi, c'est pareil. Pour mon père et ma mère, ça n'a jamais été dit, formulé... clairement dans la famille que j'étais homosexuelle, que j'avais ma mère voulait pas du tout en parler et le peu elle le disait pas à ses amis, par exemple, c'est pas quelque chose qu'elle partageait avec ses amis, que je vivais avec une femme, elle restait très évasive, je me souviens, et tout ça dans le secret, quoi, et ça lui faisait pas du tout plaisir que je mène cette vie là
ouais.
Après, quand il y a eu Adrien, ça a changé. Ça a changé le rapport. Ça lui a, je sais pas, c'est une façon d'être contente de moi, de lui avoir donné ce petit enfant, quoi, ce petit fils.
D'accord. Ce petit fils, il était acté qu'il était votre fils à toutes les deux.
Alors non, Odile l'a après son décès. Odile l'a adopté après son décès.
D'accord, ok. Et alors, pardon, revenons-en au moment où vous avez pris la décision d'habiter ensemble. Quel choix vous avez fait par rapport à votre discrétion, on va dire?
Alors, c'était, par exemple, dans le milieu du travail, c'était non dit, sauf en 95, donc plus de 10 ans après la naissance d'Adrien, il y a une collègue qui est arrivée, une nouvelle collègue qui est arrivée dans mon lycée et qui m'a dit... où tu sais, moi, ça me dérange pas, mes deux frères sont homosexuels. Et là, du coup, j'ai lâché l'affaire. Et dans mon milieu, ça s'est su.
D'accord.
Pour Odile, je sais pas, dans ton milieu professionnel, si ça se savait.
Dans mon milieu professionnel, je sais pas du tout, mais mes frères et sœurs l'ont su très vite.
Marie-France l'a su très vite. Marie-France, quand tu travailles avec Marie-France. Mais il faut parler du déménagement quand même, du fait que l'appartement, il y avait deux portes, que vous avez déménagé de nuit, que vous avez fait en sorte qu'aucune personne dans le voisinage ne le sache, quand même, si je puis me permettre.
On n'a pas voyagé, on n'a pas déménagé de nuit.
Bah alors ça, c'est la légende familiale. Moi, j'ai toujours dit à tout le monde que vous aviez déménagé de nuit, donc il faut qu'on...
Effectivement, on avait deux appartements. On avait deux appartements séparés, ça c'est sûr, avec une porte intermédiaire. Mais déménager de nuit, ça, c'est pas possible.
Et après, le voisinage était au courant, non? Les voisins du dessus, le savaient.
C'était pas... pas au moment de l'emménagement. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, il y avait des liens avec les voisins du dessus. Mais...
Et alors, vous avez trouvé facilement deux appartements côte à côte, c'est quand même pas courant.
Ah oui, c'était...
on a eu de la chance.
Odile en a trouvé un tout de suite, une fois que le divorce avait été fait, qu'elle avait touché un peu de sous. Elle a acheté donc un appartement et il s'est trouvé que presque tout de suite l'appartement d'à côté s'est libéré. Donc moi je l'ai acheté, on a cassé le mur entre les deux et on a mis une porte, ça c'était sympa. Et non, je me souviens très bien qu'on a emménagé de jour.
Ah, on rompt la légende.
Les voisins du dessus s'en doutaient, ils se savaient, je n'ai pas trop les chaînes là, ils voyaient bien qu'on était ensemble. C'était des babes de la Croix-Rousse.
On m'a menti toute ma vie. Vous avez conscience que c'est des années de psychanalyse là que je vais devoir faire pour. Ils ont déménagé de nuit avec des potes et hyper tard le soir pour pas que ça se voit.
Oui,
en fait,
oui, t'étais là.
Je le sais.
Enfin, a priori. Et
j'ai jamais déménagé avec des copains. J'ai toujours, on a toujours payé les déménagements.
Moi, il faut mener l'enquête, c'est insupportable.
Et pourquoi avoir mis une porte entre vos deux appartements? Pourquoi ne pas avoir abattu le mur, tout simplement, en fait?
Non, mais ça, c'est pas possible, parce que c'est un énorme mur dans un vieil immeuble.
C'était un porteur. D'accord.
Bon, après, on avait cuisine commune, ça faisait comme un seul appartement. Hein.
Oui, d'accord, oui. En fait, c'était une porte pour aller à une autre pièce, quoi.
Oui, oui, voilà, c'est ça.
Enfin, peut-être, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque aussi, il y avait des moments où vous dormiez séparément.
Oui.
Vous aviez. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait deux appartements, c'est pour avoir une chambre à part, parce que tu avais des. Enfin, je me souviens que t'avais des. Dans la nuit, Françoise, toi, t'avais des tendances à avoir des nuits agitées. Je sais pas si c'était uniquement pour ça, mais. Vous aviez deux chambres.
Oui, c'est vrai. Alors, on avait deux chambres parce que par. D'abord, peut-être qu'on était un peu plus indépendante. Moi, c'est vrai, je dormais moins bien, on était plus fatigués. Non, mais c'était par confort, quoi, aussi. On avait envie de dormir. Je sais pas.
N'importe quoi. C'était systématique quand les petits enfants dormaient chez vous.
Ah, bah, peut-être, alors, oui.
Exactement. Systématiquement. Et il y avait la chambre de Françoise dans l'appartement de droite, la chambre de mamie dans l'appartement de gauche. T'avais une superbe terrasse, d'ailleurs, qui donnait sur ta chambre, toi, une espèce de privilégié. Ça, je m'en souviens très bien. On ne servait jamais, vu qu'on allait quasiment jamais dans cet appart. En fait, et Adrien avait sa chambre aussi dans ton appartement. Mais je me souviens, il y avait des phrases genre la salle de bain de Françoise ou la cuisine de Françoise. Enfin, comme si c'était vraiment deux appartements séparés. Enfin,
après, moi, ma chambre, attention, hein, j'ai commencé en étant au-dessus de la cuisine dans l'appartement d'Odile. Et j'ai ensuite déménagé dans la chambre à côté de Françoise.
Ah ouais? Moi, je me souviens que c'était ma chambre au-dessus de la cuisine, surtout.
Bah, au début, j'étais là-haut. J'ai commencé au-dessus de la cuisine, côté Odile, quoi.
Bah oui, parce que...
Je sais plus quand j'ai déménagé. Je crois que quand je suis rentré peut-être au collège ou au lycée.
Bah, c'est-à-dire qu'au début, on vivait quand même dans l'appartement d'Odile, tous les trois. Adrien, c'est pour ça qu'il n'y avait, pas encore le deuxième appart.
Ah oui, il est arrivé plus tard, vraiment plus tard.
Mais attends, mais c'est quand t'étais enceinte d'Adrien que vous avez emménagé dans l'appart de
non, la non, non, c'est après. Après.
Non, avant. Ah, après, ouais. Après.
Ah, après, ok. Donc, le projet à la base, c'était quand même de vivre ensemble dans un seul appartement. Et ensuite, vous avez décidé d'agrandir avec un deuxième.
Oui, voilà. Bah, et alors, je sais pas si le.
Pourquoi vous avez chacune votre nom sur la boîte aux lettres? Vous êtes chelou quand même. Hein.
Est-ce que le deuxième, c'était pour sauver la face et dire qu'on avait deux apparts? Je me souviens pas de ça, peut-être, oui. C'est possible. On était dans un truc, on faisait quand même vachement gaffe. En plus, bon, par rapport à Adrien, tout ça, on faisait quand même vachement attention. Ça, si c'est ça que la conclusion de.
Bien sûr.
C'était pas tout confort.
Et
on fait encore attention quand même. Voilà.
Parce que ça s'est construit comme ça, en fait, pardon d'intervenir un peu. Donc, on a la même, absolument la même. Pour moi, la même histoire avec Jérôme sur le moment où on l'a su, pas du tout qu'elle allait se séparer, mais qu'elle était amoureuse d'une femme. Maman, on l'a su en effet en 81, quelque chose comme ça, 82, grâce au fait que Jérôme a fouillé du coup dans le.
Non, mais je comprenais pas pourquoi maman. Non,
Jérôme. Oui, tout à fait. Mais ce qui s'est
passé. Pas tout lu, hein, j'ai vite refermé.
La prescription.
Ce qui s'est passé. C'est que ensuite, en effet, Françoise nous a été présentée, etc. Mais nous, on ne nous l'a dit de façon explicite qu'en 86, c'est-à-dire 5 ans plus tard. C'est-à-dire que pendant 5 ans, maman ne nous a absolument pas dit qu'elle était amoureuse de Françoise, alors qu'on la voyait hyper souvent en vacances, hyper souvent en week-end, etc. Sauf que nous, on le savait. On le savait grâce à la lettre, voilà, découverte. Et on le savait aussi parce que quand elle ouvrait la porte pour se dire bonjour, il n'y avait qu'un smack. Mais quand maman me l'a dit, c'est quand elle m'a emmenée en études supérieures à Dijon en voiture, elle conduisait, et donc elle me dit, elle prend un air très solennel et très ému, et elle me dit, il faut que je te dise quelque chose. Et là je lui dis, alors si c'est pour me dire que t'es avec Françoise, maman, ça fait 5 ans que je le sais, mais je veux dire, si c'est pour me le dire là maintenant, dis-le moi. Donc toute cette histoire s'est créée sur quelque chose de très, il faut pas le dire, il faut on reste très éloigné l'une de l'autre, pas que ça se sache, et donc bah, l'appartement fait partie de ça.
Non, puis c'était une époque, encore une fois, enfin,
c'est ça.
C'était interdit dans la tête des gens.
C'était interdit et c'était ou c'était tout juste sorti du registre des maladies mentales, mais c'était enfin voilà, ça avait une connotation bien pourrie quand même. 81, ouais.
Absolument.
C'était pas encore
89 de l'OMS, mais en France ça a été dépénalisé en 81, je crois.
Oui, il me semble, c'est Mitterrand qui a fait
ça. C'est exactement ça. Exactement. Est-ce que c'était dans votre comment est venue en fait l'envie, le désir de parentalité? En commun, j'entends. Et est-ce qu'il est venu, en fait, ou est-ce que c'est un fait que Adrien est arrivé et que, du coup, bah, vous l'avez élevé ensemble?
Ah non, moi, j'avais... Voulu, oui, c'était vraiment voulu, oui. C'était vraiment un désir de parentalité qui venait de moi, d'abord, et Odile m'encourageait beaucoup. Elle avait aussi envie, du coup, qu'on élève cet enfant ensemble.
D'accord. Oui.
C'est difficile d'en dire plus sur les désirs de... l'enfant.
Bien
quoi.
Sûr, il y a rien à dire, ça, c'est,
enfin,
c'est,
dire, voilà.
C'est, ouais, c'est viscéral. C'est viscéral.
Ouais, voilà.
Mais, alors, enfin.
Alors, je trouvais quand même toujours, je me dis quand même, t'étais homosexuel et en plus t'as envie d'un enfant, c'est quand même compliqué ton histoire.
Surtout à cette époque-là. Autant maintenant, on se poserait moins de questions. Mais à cette époque-là.
Oui.
Mais, t'as toujours voulu être mère, non? Parce que sur le quand t'as passé l'annonce pour trouver un géniteur,
oui.
C'était en dehors de deal, quoi. C'était quelque chose que tu voulais aussi, que t'avais, dont t'avais envie.
Elle m'a aidé à faire l'annonce, Adrien, je te signale. On l'a rédigé.
D'accord. Ok, non, je savais pas.
Okay. Pardon, mais il va falloir développer cette annonce pour Constance, parce que je sais
oui,
pas.
Bien sûr, mais je vais y arriver, ne t'inquiète pas. Et alors, comment vous avez réfléchi à cet accès à la parentalité? Parce que, donc, la PMA, bon, je ne sais même pas si la PMA, je crois que la PMA n'existe
presque pas. Mais le mot
presque
n'existait
pas.
Même pas, le mot.
Donc,
si.
Oui, non, mais c'est ça. Et puis, c'était de toute manière inaccessible aux femmes seules, où il aurait fallu que vous soyez en couple. Enfin, bon, bref, ça aurait été un micmac pas possible. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme
alors,
solution?
Alors, si, on a trouvé qu'on avait quand même trouvé une solution. On avait, moi, j'avais un copain qui s'appelait Luc et qui vivait avec un.
En
couple avec Michel, et lui le fameux Luc, il était d'accord pour faire un enfant avec moi, et
de la coparentalité,
voilà. Et on a eu des rapports sexuels deux ou trois fois, et comme ça marchait pas, il a fait analyser son sperme et il avait zéro spermatozoïde.
Wow, d'accord.
Donc là on a
ça pouvait pas.
Oui, ça c'était clos. Donc après, on a mis des petites annonces. Et quand on est parti avec Luc et Michel pour essayer de faire un bébé, c'était sur une péniche, sur un canal, le canal de Dijon. Il y avait qui était
d'accord.
Là aussi.
D'accord. Et du coup, ça c'était en concertation tous les quatre. Est-ce qu'à un moment donné, il a été question que du coup, vous fassiez des essais avec Michel?
Non. Je sais plus pourquoi, non. Il n'a pas proposé, il a pas, non.
Non, je pose la question parce que.
C'est vrai.
Vu que ça, sur de la coparentalité, ça aurait pu se
peut-être
faire.
Peut-être qu'on en a parlé, mais j'en ai pas de souvenir de ça.
D'accord. Et donc, du coup, une fois que vous avez dû renoncer à cette solution-là, qu'est-ce que vous avez pris comme
décision? Alors, je crois que c'est Odile qui a dit on va mettre une petite annonce. Et donc, j'ai mis... vous voulez le contenu de la petite annonce?
C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez ce qu'on met dans l'épisode.
Femme équilibrée, c'est toi qui avais mis ça. Heureuse, cherche...
géniteur.
J'ai peut-être pas mis géniteur. Cherche homme pour faire un enfant, un truc comme ça. Cherche homme pour faire un enfant.
D'accord.
J'en ai rencontré plusieurs.
Mm-hmm.
Et voilà, celui-là, il me semblait sympathique. Bien.
D'accord. Et vous n'avez pas eu de déconvenue en rencontrant des gens qui répondaient à une annonce? C'est peut-être un a priori hein, de ma part, mais à notre époque, je pense qu'on ne s'aventurait plus trop à ça, en fait.
Oui, c'est ça. Non, mais j'avais quand même de la ressource. J'avais 34 ans, 35 ans, plus même. Donc j'avais de la ressource pour me...
Bon, en tout cas, vous avez trouvé votre bonheur, entre guillemets.
Je trouvais qu'il ressemblait un peu à mon père. Il était prof de fac et il était juif, j'aimais bien ça. Et il était cultivé, bien plus âgé que moi. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il a pas du tout. Il voulait parce qu'on a eu une relation pendant 6 mois presque, enfin un peu plus, même peut-être plus de plusieurs mois. Et après, il était tombé amoureux de moi. Il voulait qu'on se marie. Alors ça, il voulait rien savoir. Et quand j'étais enceinte, il voulait plus rien savoir, quoi. Après, il a vu Adrien.
Ah ouais, oui.
Ouais, ça, c'était pas ça, c'est pas une réussite. Ça a été dur.
Non, parce que le deal, c'était quoi? C'était que il devenait le, il ne restait que le géniteur ou il devenait le père et il avait un droit de garde?
Bah, il voulait pas rester que géniteur au début. Pourtant, je lui avais dit que je vivais avec Odile et que, donc j'ai eu une période où j'étais avec lui, avec Odile en même temps et je lui ai dit non mais moi je veux rester vivre avec Odile, mais on peut garder des relations comme un couple divorcé et comme ça on peut élever l'enfant ensemble. Mm-hmm. Et il a dit non, mais non, c'est, on vit ensemble. Enfin, pas à la fin quand j'étais enceinte, qu'Adrien était né, il voulait plus quoi, il voulait qu'on vive ensemble. Et moi voilà, ça c'est,
donc il pouvait pas vous forcer hein.
Non.
Vous ne pouvez pas vous contraindre.
C'était pas ce que j'avais prévu, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, surtout que c'était un projet commun avec Odile. Donc,
Et Odile était d'accord aussi pour qu'il soit présent, voilà, qu'il ait un rôle à jouer, mais il n'a pas voulu. Il a envoyé des lettres. J'ai envoyé. Qu'est-ce que tu as dit?
Pas trop longtemps.
Non, j'ai dit pas trop longtemps.
J'ai envoyé des lettres aussi de le relancer, mais rien n'a fait. Rien n'y a fait.
Et... Il a déclaré, Adrien, la naissance?
Non.
D'accord. Bon, vous avez eu enfin, au moins cette tranquillité d'esprit-là.
Oui. Ben oui, après, je me suis dit, heureusement qu'il ne l'a pas déclaré. Parce que...
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça... Enfin, comment vous avez géré le quotidien avec Adrien, du coup, toujours en étant plutôt caché? Comment on élève un enfant en 88, c'est ça? 89, 88? En tant que maman homosexuelle.
Ça ne
doit pas être le plus compliqué non plus.
Je ne me souviens pas qu'on vivait une vie de famille comme tout le monde. Il n'a pas mis en crèche. Aussi, il a été en crèche, si. On vivait une vie de famille comme tout le monde, quoi. Il n'y avait rien de particulier. Je pense qu'Adrien, je ne l'entends pas là, mais.
Je vais lui poser plein de questions. J'ai plein de choses à lui demander.
Il fallait pas trop en parler, peut-être. Il sentait que...
Vous ne cachez pas,
quand on était avec Adrien.
Bébé.
Et il savait à la crèche et à l'école qu'Adrien avait deux mamans?
Je sais pas bien, ça. Pas sûr.
Bah, non. Pour des questions pratiques, genre, quand Odile venait me chercher à ta place...
Ah ouais, c'est ça.
Ouais.
Tu vois, pour des responsables légales, s'il devait appeler en urgence... Moi, j'ai surtout le souvenir, en fait, dans ma scolarisation... d'avoir levé la main pour dire au prof quand il nous faisait remplir la fiche de renseignement que j'avais personne à mettre pour père. Mm-hmm. Et que j'avais en fait une deuxième mère, quoi.
Ah oui, donc pour toi, c'était... Enfin, voilà, tu le disais sans problème, quoi.
Ouais, ouais, et j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec les amis, avec les camarades de classe à l'époque, avec les enseignants.
Mais à quel moment la société s'est fermée comme ça? Non, mais c'est vrai, on a... presque plus de difficultés maintenant. C'est fou.
Ah oui,
c'est génial.
Bah après, d'enfant à enfant, pour eux qui ne sont peut-être pas autant marqués par des a priori réac, c'est juste, ok, il a deux mamans. Okay. Enfin, il n'y avait pas plus de réflexion que ça. Alors, je parle de niveau collège, hein, parce que je n'ai pas forcément... en fait, il y avait un moment donné où j'en ai plus du tout parlé. Et je sais plus trop pourquoi, mais ça me venait pas. J'en parlais quand on me posait la question, mais c'était pas un truc spécial. Et du coup, ça, c'est pas un truc que j'ai porté ostensiblement quand les gamins ou les camarades de classe pouvaient commencer déjà à formuler des choses réactionnaires, comme dans le supérieur typiquement. Mmh. Donc au collège, les gamins, enfin honnêtement, ils sont. Je dirais qu'ils s'en foutent pas mal. C'est des parents, quoi. Alors, il pouvait y avoir peut-être des réactions gênées que, à l'époque, bah, comme je suis gamin, ça me passe au-dessus de la tête. Mais j'ai pas eu de... Enfin, il y a peut-être eu des problèmes de traitement. Ce serait peut-être François, s'il s'en souviendrait mieux,
Les problèmes
des questionnements, ce genre de choses, mais des soucis de traitement, des réactions peut-être bizarres des encadrants en primaire. Parce que je suis quand même allé dans une école primaire privée catholique. Hein.
Oui, oui, oui. Je vois bien, mes enfants sont aussi là.
Voilà,
catholiques.
Et pourtant, il n'y avait pas de...
Pas de jugement.
Bah, moi, je m'en souviens pas. Après, peut-être entre les relations parents-prof. Ça te dit rien, Françoise ?
Non, je me souviens pas qu'il y ait eu...
À Saint-Louis-Saint-Bruno ?
Je me souviens que, bon, il y avait, à Saint-Louis-Saint-Bruno, il y avait des familles très catho-bourgeoises, lyonnaises, donc, qui étaient parfois distantes. Alors, après, soit c'est à cause de notre situation, soit c'est parce qu'elles estimaient qu'on n'était pas du même milieu. Je sais pas, il y a ça aussi à Lyon, hein, donc c'est difficile à dire. Mais... Je me souviens surtout de, quand tu as raconté ton histoire à notre mariage, Adrien, tes deux copains là, quand tu leur as dit que tes copains, quand tu leur as dit que tes parents allaient se marier, c'était marrant ça.
Ouais. Après, à cette époque-là, j'étais déjà avec des, enfin, j'étais pas avec des potes réacs, quoi. Donc forcément, ils allaient, enfin, ça leur, ils étaient complètement ok avec ça, quoi.
Et par exemple, tes copains, Loïc. Tout ça, ils faisaient pas de réflexion.
Non, après, ça empêchait pas que j'avais des. Je me souviens d'avoir eu des camarades de classe qui étaient assez ouvertement homophobes. Mais j'ai le sentiment que j'en ai, c'est que l'homophobie, elle s'exprime beaucoup plus difficilement quand ça touche les proches. C'est-à-dire, c'est facile de rejeter quand c'est quelque chose d'abstrait et d'imaginer. Mais dès que c'est par exemple des parents d'un camarade de classe qu'on croise. Et qui sont en plus assez sympathiques, à part le fait que eux, ils peuvent avoir des propos homophobes. Je sais pas, il y avait beaucoup de situations où ça pouvait être de la gueule, et finalement, quand il y a la situation en face, bah en fait, ils voyaient bien que c'était normal, qu'il y avait rien d'exceptionnel, et donc c'était peut-être plus caché, plus masqué, mais.
Il faisait attention à ce qu'il disait, là, quand ils étaient avec toi.
Ouais, et puis même là, parce que tu vois, par exemple, Maxime, qui est un ami du, c'était école primaire ou collège? C'était école primaire, Maxime. Maxime qui a viré complètement raciste et homophobe, à l'époque. Et c'est pareil, Christophe Bouchu aussi, qui avait un père qui était complètement raciste. Donc, à chaque fois, des familles plutôt, a priori très réactionnaire. Je sais pas, avec les parents de Christophe, par exemple, tu leur parlais sans problème, mais il y a aussi, je pense, il y a une capacité pour ces gens-là à rester, on va dire, un peu poli et à pas faire de scandale. Donc ouais, c'était pas, ça sautait pas aux yeux, quoi.
Ouais, ouais, parce que vous étiez tous dans la discrétion, en fait.
Et parce qu'ils nous connaissaient aussi, c'était interrelationnel. Encore une fois, hein, des personnes qui se tiennent la main dans la rue qu'on connaît pas. Il y a peut-être une plus grande facilité à les agresser parce que justement on les connaît pas. Des personnes qu'on a grandi avec, Christophe, j'avais fait, on avait été dans la même classe et tout, ça démystifie un peu le côté c'est inconnu. Une famille d'homosexuels, ils sont pas comme nous. Bon, en fait, si, donc de ce côté-là.
Et du coup, je vais repartir sur Odile et Françoise pour qu'on aille au bout en fait de leur relation et ensuite on va basculer. J'aimerais beaucoup entendre Jérôme et Emmanuel sur leur ressenti aussi. Et donc vous trois, tout court, du coup. Odile et Françoise, vous avez pris la décision de vous marier. Donc là, vous étaliez un petit peu entre guillemets vous affichiez votre relation au grand jour.
Oui, ben en 2014, on s'est mariés. Alors d'abord parce que ma mère venait de décéder,
je me sentais. Ça simplifiait.
C'est pas d'abord, non. C'est que quand la loi Taubira est passée, moi j'ai trouvé vraiment que j'étais vachement contente, quoi. J'étais contente.
Ah là là, ouais.
Je m'en fous du mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est
oui, oui. Pas ça.
Parce qu'on était ensemble depuis, on est ensemble là maintenant depuis 40 ans, mais le fait que, voilà, que ce soit Taubira qui fasse passer ça, que on est allé à des manifs et tout, c'était chouette, quoi. Il y avait une, un truc de libéré, une acceptation, une, je sais pas, un truc vachement amical qui venait vers nous socialement, quoi. Un truc facile à dire.
Et vous m'avez dit aussi que c'était quelque chose d'important que vous vouliez faire en direction d'Amélie.
Mais oui, parce qu'Amélie, toi, t'es née en quelle année ?
Moi, je suis née en 94.
Oui, donc oui, effectivement.
Mais enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me souviens d'un déjeuner où je suis venue vous voir à Lyon. Et à l'époque, j'avais décidé d'échouer dans mes études pour militer pour le mariage pour tous à la place. Ce qui est un plan de travail comme un autre. Et je me souviens de ce repas où je vous avais dit, mais enfin, vous allez vous marier là, c'est en train d'être gagné. Je me souviens, on était en 2013, on savait que ça allait être voté dans les semaines à venir. Je vous avais dit, mais enfin, évidemment que vous allez vous marier. Et Mamie Mouche t'a dit, ben non, enfin, pourquoi on ferait ça? Françoise t'a dit, oui, non, c'est vrai que bon. Puis là, vous vous êtes regardé et Françoise t'a dit, puis en même temps, c'est vrai que ce serait peut-être pas. Non, je me souviens de ce repas comme si c'était hier. Mais genre, pendant tout le temps du débat, vous disiez oui, non, mais on va en manif, oui, c'est important, nanana. Mais vous n'aviez pas du tout prévu de vous marier. Et à un moment, vous êtes obligé à le faire. Donc, du coup.
C'est toi qui as fait la demande, en fait, c'est ça?
C'est moi qui ai fait la demande.
C'est vrai qu'on, comment dire, on l'a fait effectivement, sans doute pour Amélie, pour les jeunes, pour les, voilà, pour les homosexuels, pour un peu, c'était un mariage plus militant que, voilà, c'est ça, c'est sûr. On était contents de pouvoir le faire. Et puis, on était avec nos enfants, c'était bien, on a fait un petit mariage, voilà, avec la famille, ça, c'était très, très agréable aussi. Pour nous, c'était un pansement sur des quelques années de, on a eu beaucoup d'années de bonheur, mais il y avait cette arrière-pensée un peu déchirante, quoi. Donc là, c'est ça, c'est un pansement dessus.
J'ai une question, c'était pas que vous avez commencé à aller à la Gay Pride?
Non, on n'y est jamais allé à la Gay Pride. On est allé à des manifs.
Moi, je me souviens au moins une fois où Odile avait récupéré un petit drapeau LGBT, c'était resté discret, hein, ça. Vous n'avez pas fait toute la manifestation.
Non, j'ai une photo de vous. J'ai une photo de vous à la Gay Pride de Lyon de cette année-là.
La Gay Pride.
Vous sur un chat.
Ah oui, quand même.
Vous étiez seins nus avec des plumes.
Non. Alors, c'était peut-être la Gay Pride. En tout cas, moi, j'étais pas très. Jamais, j'ai été très à l'aise avec la Gay Pride parce que comme c'est, on a du. Moi, j'ai du mal à voir le côté.
Fierté.
Comment dire, simulé et complètement extraverti, quoi. Et le tout complètement extraverti, j'ai du mal, mais bon.
Bah, surtout que vous étiez dans la discrétion.
Oui, c'est ça, on avait du mal à faire les deux, quoi.
Vous en aviez parlé à vos copines aussi, parce que.
Ah, c'est pas
un truc aussi, c'est qu'à l'époque, elles ont toujours d'ailleurs, elles ont toujours eu des copines lesbiennes aussi.
Oui.
Et donc, je sais pas si vous en aviez parlé aussi avec elles.
De quoi?
Du mariage.
Ah oui,
on avait discuté avec Marie et Martine, avec Anne et Claude.
Le mariage, on l'a vraiment décidé nous deux, quoi. Mm-hmm. Et ben, aux autres copines homosexuelles, on leur en a parlé. Il y en a pas. Les autres se sont pas mariés, hein. Si, non.
Est-ce que derrière le mariage, il y avait un projet d'adoption d'Adrien?
Ah, c'était bien avant l'adoption d'Adrien. Il me semble, hein, Adrien.
Honnêtement.
Alors, il faut que vous me racontiez, il faut que vous m'expliquiez ça. Comment c'était possible avant?
Si, dès que t'as été en
moi, l'adoption.
Mais c'était pas possible.
Oui, c'était.
C'est pas possible?
Je pense qu'on en avait. Je pense que ça a traîné pendant un petit moment de se poser la question.
Je crois que c'est pas pareil quand la personne est adulte.
Et ça s'est fait.
Non, c'est pas pareil.
Ça s'est fait, je sais même plus quand ça s'est fait. Je sais qu'il y avait un moment donné, en fait. J'en avais marre de m'appeler juste Marchand, alors que bah Odile m'avait élevé aussi, et donc j'avais demandé, enfin on en avait reparlé suite à ça pour avoir Marchand Barrière, quoi. Mais au niveau du timing, j'en ai aucune idée.
Oui, je crois que c'était avant le mariage, parce que vous avez dû faire un témoignage, maman et tonton.
Oui, mais c'était pas ouvert.
C'était avant le mariage, alors oui.
Tu mais pouvais pas adopter.
Je crois que justement il y avait un truc.
J'ai un doute, hein.
Regardez,
il y avait pas un truc où parce qu'il était adulte, c'était pas les mêmes restrictions. Enfin, genre.
En fait, parce qu'il était adulte, il pouvait demander, lui, à être adopté. Ça, c'est, la demande peut venir de lui, en fait.
Je peux chercher, par contre, dire la date de l'adoption.
Ouais, voilà, la date de l'adoption, mais vous connaissez
la date. Par contre, l'adoption n'était pas ouverte aux couples de femmes. Donc, je pense pas qu'il aurait pu être adopté par une femme.
2015.
Même juste après, du coup.
Ouais, juste
je
après.
Le savais. Non, mais c'est vrai que c'était bizarre. Mais vous en a... non, mais vous aviez prévu de le faire avant. Vous en parliez depuis un mais petit moment.
Oui, voilà. D'accord, ok. Et donc ça, c'est venu de toi, Adrien.
Oui, mais après, on avait dû en parler. Je sais pas. Honnêtement, je sais que j'en avais reparlé à un moment donné, mais ça a dû être déclenché par un autre truc. Alors c'est peut-être aussi la manif pour tous, le temps que ça décante et de me dire, bah voilà, un peu comme le mariage, hein, de se dire d'un point de vue militant, je vais pas rester marchand toute ma vie, quoi. Je vais aussi être marchand barrière. Mais je serais incapable de dire plus que ça parce que au final ça s'est fait assez, j'ai l'impression, alors rapidement peut-être pas, mais il n'y a pas eu tant d'obstacles que ça, enfin c'est surtout toi, Françoise, qui t'en est occupée.
Ben moi c'est moi qui m'en suis occupée, mais en fait c'était eux deux qui étaient liés des petites amendes aussi, tous les deux ils revenaient régulièrement là-dessus. Moi j'avais
c'est possible que ça tournait depuis vraiment assez longtemps.
Moi j'avais peur après qu'il j'avais peur de, comment dire, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça, qu'il y ait des histoires avec les successions. Avec, j'avais peur que ça, pour Emmanuel et Jérôme, voilà. J'étais pas tranquille là-dessus. Et, mais bon, Adrien et Odile en reparlaient très régulièrement. Très souvent. Donc, je m'en suis occupée.
Et ça s'est fait, moi, je me fais ça s'est fait, il y a pas eu de, on n'est même pas passé devant un juge ou quoi que ce soit, quoi. Je me souviens pas du tout. Enfin,
je crois que, il me semble que si, c'est passé par.
C'est passé par un juge, mais je suis pas, j'ai pas fait d'audition. Je sais même pas si Odile en a fait non plus.
On était chez une avocate en tout cas. On était
ouais. Avec une avocate. Oui.
Ouais, c'est l'avocate qui a dû faire la séance. Oui. Et est-ce qu'il a été question à un moment donné que Jérôme et Emmanuel soit adopté par Françoise dans le cas d'une adoption simple, puisqu'une adoption plénière, c'est... ils avaient leur papa.
On ne l'a pas proposé, mais on veut bien, nous.
Qu'est-ce que tu dis, Jérôme?
Je dis, on ne nous l'a pas proposé, mais on veut bien. Non, je plaisante.
Moi, je n'ai pas proposé. Je ne sais pas, parce que pour moi, ils ont un père, alors c'est...
Suite à tout ça, donc, vous avez quand même... commencer à bien vous montrer, en fait, en tant que couple, en tant que famille, vous avez pris la décision d'emménager vraiment ensemble dans une seule maison avec une seule porte et une seule boîte aux lettres. C'est ça ?
Oui, et une seule chambre pour nous deux.
Et une seule chambre pour vous deux. Et Amélie m'a raconté que vous aviez vendu votre appartement. Vos appartements, pardon.
Oui, alors on a vendu nos deux appartements et on en a acheté un seul, encore plus beau.
Est-ce que vous ne l'avez pas vendu en un seul appartement ? Vous avez vendu deux appartements.
Oui, voilà, c'est ça. Vous avez bien vendu deux apparts, c'est ça ?
Oui.
Donc, vous avez dû refermer cette porte.
Oui. Oui, on a refermé la porte. On a laissé c'était une belle porte en chêne. On a laissé la porte en chêne à l'intérieur avec la clé dorée dessus. Et on a mis une cloison de chaque côté.
Wow.
De chaque appartement.
Mais les acheteurs, ils savent l'histoire ou pas? Non, mais parce que moi, je l'achète, l'appart. Je trouve ça tellement mignon. C'est hyper symbolique.
Oui, si vous l'achetez, on pourra vous dire où casser pour retrouver la porte.
Ah oui, mais alors avec grand plaisir. Moi, je la laisse apparente, la porte. C'est génial. Franchement, c'est vraiment hyper symbolique, hyper mignon. J'avoue que quand Amélie m'a raconté ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'était vraiment, je trouvais ça très très chou. Et donc depuis, vous avez acheté un grand appartement et vous vivez, comme un couple lambda, hein, j'ai envie de dire, la vraie vie libre du 21e siècle, on va dire.
Oui, enfin bon, on fait quand même toujours attention. Hein. Je dis d'ailleurs, on ne va pas, on jambe pas sous les toits et tout ça. Enfin,
Oui.
Amélie nous aide beaucoup quand même parce que elle a réponse. Des fois, moi, je manquais un peu de réponse et de d'attitude, même de savoir quelle attitude avoir. Quand je vois quand Amélie répond à quelqu'un qui est gêné par l'homosexualité, elle lui répond c'est pas mon problème, c'est le tien. Ça m'aide beaucoup.
Non mais c'est vrai, elle a raison. Il faut juste avoir le cran de le faire.
Oui, mais au moins déjà de le penser, c'est vachement important.
Ouais, complètement.
Ça nettoie toute la culpabilité, tout ça, la honte. Donc c'est vachement important, oui.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Donc, c'est vrai qu'avec Nathan, ils nous apprennent des choses. Ça, c'est sympa.
Ils nous apprennent la vie.
Oui.
C'est d'accord. Ouais.
Oui. Oui, c'est leur attitude, leur façon d'être et tout. Ça change quand même beaucoup par rapport à
l'acceptation, ouais.
Parce qu'on, nous, on est resté bloqué un tout petit peu, ouais, quand même dans ce qu'on a vécu il y a 40 ans, quoi. C'est normal, hein.
Enfin, oui, mais bien sûr.
On voit bien sûr qu'on peut faire autrement, ça c'est sympa avec eux.
Ouais.
Mais toi, Françoise, tu te cachais, certes, mais t'avais aucune culpabilité.
Si. Enfin, j'étais.
Mais pour toi, je te parle. Pour toi, parce que maman, elle avait la culpabilité pour elle par rapport à ses parents, à nous. Mais pour toi, t'avais pas encore Adrien.
Oui, mais tu sais, quand tu te caches, t'es pas bien non plus, hein. T'es quand même, ouais, je sais pas si c'est de la culpabilité, mais j'avais l'impression, quelquefois, d'être double, tu vois, dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir une Françoise qui, une deuxième Françoise qui...
Oh non, pitié.
Ce que je veux dire, quand t'es pas à ta place, quand tu fais semblant, quand tu racontes des conneries.
Quand vous êtes pas vous.
Oui, quand on n'est pas soi-même, c'est... Des fois, c'était ça. Alors, je sais pas. Non, c'était peut-être pas de la culpabilité, mais c'est pas psychiquement, c'est vachement dur de cacher des trucs, tu vois.
Bien sûr. C'est hyper inconfortable de ne pas être soi-même et de surtout quand on tient à son intégrité, on va dire. C'est hyper inconfortable.
Ben, c'est même pas qu'on y tient, c'est qu'on en a besoin. Et puis, moi, je me souviens d'avoir été très angoissée, très, très angoissée, des crises d'angoisse affreuses. Beaucoup moins maintenant. Bon, j'étais aussi angoissée parce que j'étais prof et que j'avais peur toujours de faire mes cours de travers, mais...
Ça, je crois que c'est la crainte quand on est investi quelque part. Hein, c'est toujours la crainte de pas faire comme il faut. Voilà. Ok, bah, écoutez, franchement, waouh. Votre histoire me fait rêver. Même si vous êtes passé par des choses compliquées, même si vous avez dû traverser et prendre des décisions que je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de prendre. Honnêtement, votre histoire est magnifique. Magnifique. Et je pense que vos enfants et vos petits-enfants le savent. Ils en sont fiers puisqu'ils la racontent.
Du coup, on les oblige à raconter. C'est pas juste que nous, on la raconte. C'est quoi ?
Oui, en plus. Mais c'est important, c'est de la visibilité. Et puis pour nous, parents, famille homoparentale, voir nos aînés qui ont réussi à mener ces familles et que les enfants aillent bien, on va en parler des enfants, hein, mais on sent qu'il y a un respect dans votre famille, qu'il y a un épanouissement, qu'il n'y a pas forcément dans toutes les familles hétéros. Donc c'est hyper, hyper, hyper rassurant. L'épisode se termine ainsi, peut-être un peu abruptement me direz-vous. C'est la fin de l'épisode, mais l'histoire continue. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à cette voix, pour découvrir la perception de la génération des enfants d'Odile et Françoise, Emmanuel, Jérôme et Adrien. Et puis, je vous retrouverai la semaine suivante, avec la génération des petits-enfants. Et enfin, dans 3 semaines, avec l'histoire de parentalité d'Amélie et Nathan. C'est un peu une saga cette histoire, non ? Mais alors attention, je vous préviens, ils sont tous attachants et je suis convaincue qu'ils vont vous manquer. Maintenant que vous avez la pêche pour la semaine, je vous dis à lundi prochain. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake.
inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.